Lizzie présente La disparue de la cabine numéro 10 de Rose Ware. Traduit de l'anglais par Héloïse Esquier. Lu par Alice Torrent. À Eleanor, avec amour. Dans mon rêve, la fille dérivait, bien au-dessous des vagues et du cri des mouettes, dans les profondeurs froides et ténébreuses de la mer du Nord. Ses yeux rieurs étaient blancs et gorgés d'eau salée, sa peau pâle était ridée, ses vêtements réduits à l'état de haillons par des rochers coupants. Seuls restaient ses longs cheveux noirs, qui flottaient dans l'eau comme des algues, s'en mêlaient dans les coquillages et les filets de pêche, pour s'échouer finalement tels des écheveaux de cordes effilochées, tandis que le mugissement des vagues qui s'écrasaient sur la rive résonnait dans mes oreilles, assourdissant. Je me suis réveillée, pleine d'effroi. Il m'a fallu un petit moment pour me rappeler où je me trouvais, et plus longtemps encore pour réaliser que le grondement que j'entendais n'était pas le fruit de mon imagination. La pièce était plongée dans la pénombre, et l'humidité y suintait comme dans mon rêve. En me redressant, j'ai senti un courant d'air frais contre ma joue. Le bruit semblait venir de la douche. Je suis descendue du lit en frissonnant légèrement. La salle de bain était fermée. Mais en m'approchant, j'ai entendu le grondement enflé, tandis que mon cœur s'emballait. Prenant mon courage à deux mains, j'ai ouvert brusquement la porte. Le bruit de l'eau emplissait l'espace confiné. J'ai cherché l'interrupteur à tâtons. La lumière a inondé la pièce. Et c'est là que je l'ai vue. En travers du miroir couvert de buée, en lettres d'une vingtaine de centimètres de haut, on avait écrit les mots « Arrête de fouiner ». Première partie. Vendredi 18 septembre. Chapitre 1. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai tout de suite compris quand je me suis réveillée dans le noir, avec la chatte qui me donnait des petits coups de patte sur le visage. J'avais dû oublier de fermer la porte de la cuisine la nuit précédente. Ma punition pour être rentrée bourrée. J'ai grogné « Fiche le camp !» Delilah a miaulé et m'a donné un petit coup de museau. J'ai essayé d'enfouir mon visage dans l'oreiller, mais elle a continué à se frotter contre mon oreille. Finalement, je me suis retournée et, sans conviction, je l'ai poussée du lit. Elle est tombée lourdement sur le sol avec un petit « mi » d'indignation. Et j'ai tiré la couette par-dessus ma tête. Mais même à travers les couvertures, je l'entendais gratter le bas de la porte, qu'elle faisait branler dans son cadre. La chambre était fermée. Je me suis redressée, le cœur battant soudain la chamade, et Delilah a sauté sur le matelas avec un petit glapissement joyeux. Je l'ai attirée contre ma poitrine. Je l'ai faite tenir tranquille, et j'ai tendu l'oreille. J'avais pu oublier de fermer la porte de la cuisine ou tenter de la claquer d'un coup de pied sans y parvenir correctement. Mais ma chambre s'ouvrait vers l'extérieur. Mon appartement était bizarrement configuré. Il était hors de question que Delilah ait pu s'enfermer à l'intérieur. Quelqu'un avait dû fermer la porte. Je suis restée figée, tous les sens en alerte. Rien. Puis, avec un soupir de soulagement, j'ai compris. Elle s'était sans doute cachée sous mon lit, et je l'avais enfermée avec moi en rentrant, même si je ne me rappelais pas avoir fermé la porte de ma chambre. Pour être honnête, à partir de la station de métro, mes souvenirs étaient un peu nébuleux. Le mal de tête avait commencé à s'installer sur le trajet du retour. Et maintenant que ma peur se dissipait, je le sentais remonter à la base de mon crâne. Il fallait vraiment que j'arrête de picoler en semaine. Dans la vingtaine, ce n'était pas grave, mais désormais je ne parvenais plus à me débarrasser des gueules de bois si facilement. Delilah s'est mise à gigoter dans mes bras, enfonçant ses griffes dans ma peau, et je l'ai relâchée. J'ai enfilé ma robe de chambre, puis j'ai ramassé la chatte, prête à la ramener dans la cuisine. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait là. Il est inutile de me demander à quoi il ressemblait. Car, croyez-moi, je suis revenue là-dessus environ 25 fois avec les flics. On ne voyait même pas un peu de peau au niveau des poignets? N'arrêtait-il pas de demander? Non, non et non. Il portait une capuche, un bandana qui lui cachait le nez et la bouche, et tout le reste était dans l'ombre, à part ses mains. Or, il portait des gants de latex. C'est ce détail qui m'a pratiquement fait chier dans mon froc. Ses gants disaient « Je sais ce que je fais ». Il disait « J'ai préparé mon coup ». Il disait « Si ça se trouve, ce n'est pas seulement après ton fric que j'en ai ». Nous sommes restés face à face pendant une interminable seconde. Ses yeux brillants plantés dans les miens. Un millier de pensées ont défilé dans ma cervelle. Où peut bien être mon téléphone? Pourquoi j'ai tant picolé hier soir? Sobre, je l'aurais entendu entrer. Oh putain, si seulement Judah avait été là. Et surtout ses gants. Oh bon Dieu, ses gants! Il faisait tellement professionnel, tellement clinique. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas bougé. Je suis restée plantée là, avec ma robe de chambre miteuse qui bâillait. Je tremblais comme une feuille. Delila s'est dégagée de mon étreinte sans rencontrer de résistance. Et elle a filé se planquer dans la cuisine. « Je vous en prie, j'ai pensé. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Ah putain, où était mon téléphone ?» C'est alors que j'ai vu quelque chose dans les mains de l'homme. Mon sac à main. Un Burberry neuf, même si ce détail semblait monstrueusement futile. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait au sujet de ce sac. Mon portable se trouvait à l'intérieur. Ses yeux se sont plissés de telle sorte que je me suis dit qu'il souriait peut-être sous son bandana, et j'ai senti le sang quitter ma tête et mes doigts pour se concentrer au centre de mon corps, prêt à la lutte ou à la fuite, selon les circonstances. Il a fait un pas en avant. « Non », ai-je dit. J'aurais voulu que mes mots sonnent comme un ordre, mais ils sont sortis comme une supplication, d'une voix faible, criarde et pitoyablement chevrotante. Non. Je n'ai même pas eu le temps de finir. Il m'a claqué au nez la porte de la chambre qui m'a heurté la joue. Pendant un long moment, je suis restée sans bouger, la main sur le visage, sidérée par le choc et la douleur. Sous mes doigts gelés, je sentais quelque chose de chaud et d'humide. Et il m'a fallu quelques instants pour comprendre que c'était du sang, que la moulure de la porte m'avait fendu la joue. J'avais envie de courir me remettre au lit, de me cacher la tête sous l'oreiller et de pleurer sans m'arrêter. Mais une petite voix hideuse ne cessait de me répéter. Il est toujours là, quelque part. Et s'il revient? Et s'il revient pour t'achever? Il y a eu un bruit dans le couloir, la chute d'un objet, et j'ai senti une montée de panique qui aurait dû me galvaniser mais m'a plutôt paralysée. Ne reviens pas. Ne reviens pas. Je me suis aperçue que je retenais ma respiration et je me suis appliquée à exhaler d'une longue expiration un peu hachée. Et lentement, très lentement, je me suis forcée à tendre la main vers la poignée de la porte. Le fracas a recommencé à l'extérieur. Un bruit de verre brisé. Et d'un geste précipité, j'ai saisi la poignée et l'ai tirée de toutes mes forces. Mes orteils nus étaient bien plantés dans le vieux plancher plein de trous. J'étais prête à maintenir la porte fermée aussi longtemps que je le pourrais. Je me suis accroupie, penchée en avant, les genoux contre la poitrine, tâchant d'étouffer mes sanglots dans ma robe de chambre. Et je l'ai écoutée saccager l'appartement, priant pour que Delila ait réussi à s'enfuir dans le jardin, à l'abri. Finalement, après un long, long moment, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. J'ai continué de pleurer, la tête entre les genoux, incapable de croire qu'il était vraiment parti. Qu'il n'allait pas revenir pour me faire du mal. J'avais les doigts engourdis et des crampes douloureuses, mais je n'osais pas lâcher la poignée. Je revoyais ses mains puissantes dans les gants de latex blanchâtre. Je serais peut-être restée là toute la nuit, incapable de bouger, si je n'avais pas entendu Delila dehors, qui miaulait et grattait de l'autre côté de la porte. « Delila ?» Ma voix était rauque, tellement étranglée que je la reconnaissais à peine. « Oh,
Delila !
À travers la cloison, je l'ai entendu ronronner, avec ce bruit de tronçonneuse râpeux et familier. Et j'ai eu l'impression que le sortilège était brisé. J'ai desserré mes doigts crispés et endoloris, et je les ai dégourdis. Puis je me suis levée, je me suis efforcée de stabiliser mes jambes, et j'ai essayé la poignée. Elle a tourné. À vrai dire, elle a tourné trop facilement, sans aucune résistance sous ma main, sans faire bouger le pen d'un centimètre. Il avait retiré l'axe depuis l'autre côté. Merde. Merde, merde, merde. J'étais coincée.